100% entrepreneur.
Confidence d'un parcours.
Ils vous disent tout sur We Do Biz.
Benoît Duchâtelet à l'antenne de We Do Biz pour l'émission Les Hommes Clés. Ravi de vous retrouver. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui André L'Hôpital et Antonin Ficatier. Bonjour Antonin.
Bonjour.
Bonjour André.
Bonjour.
Je souhaitais vous recevoir aujourd'hui à deux titres parce que vous avez des parcours d'entrepreneur, mais en même temps parce que vous illustrez ce que l'on peut vivre dans le cadre du développement d'une entreprise et le coup de main qu'on peut apporter. André est coach aujourd'hui, vous nous ferez part de votre parcours juste après. Et Antonin, en tant que jeune entrepreneur qui a développé le Chinese Institute, dont vous allez nous parler pendant cette émission, si vous le voulez bien. André, est-ce que vous avez la gentillesse de revenir sur votre parcours et ce qui vous a emmené à créer votre société de coaching aujourd'hui ?
Alors, mon parcours a débuté dans l'ingénierie, mais très rapidement, j'ai dévié vers le conseil en management et la formation également, avec une forte spécialité qui est le management de projets, puisqu'il y a évidemment une forte demande dans le management des projets complexes. J'ai plusieurs années d'expérience assez riche dans ce domaine du management des projets complexes. Et au bout d'un certain temps, j'ai eu envie de créer mon propre cabinet. Donc en 2005, je me suis donc installé en consultant avec un cabinet qui s'appelle Expera. Et assez rapidement, donc, j'ai souhaité me former pour devenir coach, car j'étais attiré par ce type d'accompagnement plus personnalisé et différent du conseil ou de la formation. J'ai donc suivi une formation permettant d'avoir une certification, c'est-à-dire une sorte de diplôme qui est maintenant nécessaire pour exercer, enfin, de plus en plus, les entreprises demandent donc que les coachs soient certifiés.
Oui, c'est la moindre des choses, effectivement, pour savoir à qui on a affaire.
Voilà, sachant que c'est une profession qui n'est pas réglementée par l'État,
c'est pour ça.
Il est bien qu'il
y ait tout de même
des certifications délivrées par des organismes réputés. Voilà, donc j'exerce maintenant à la fois bien sûr toujours comme consultant et formateur, mais de plus en plus comme coach, et j'essaye donc de développer une spécialité qui est liée à mon parcours, qui est le coaching de projet, c'est-à-dire coacher ou faire du mentorat. J'expliquerai tout à l'heure peut-être de quoi il s'agit, la différence, la nuance. Coacher des personnes qui sont en situation de responsabilité de projet. Alors projet, il y en a de toutes sortes, mais il y a bien entendu les projets de création d'entreprise. C'est un type de projet ô combien difficile à mener. On en parlera tout à l'heure quand on parlera de comment j'ai rencontré Antonin et ce qu'on a fait ensemble. Voilà, donc le coaching, c'est assez large, ça s'adresse à toute personne en situation professionnelle souhaitant améliorer sa performance dans le domaine professionnel, donc c'est très vaste comme champ. Mais il est bon aussi d'avoir une spécialité, et j'ai choisi évidemment celle qui correspondait à mon parcours précédent, donc le coaching de projet.
Mais alors la transition, vous nous l'avez offerte, effectivement, avec Antonin. Antonin, est-ce que vous avez la gentillesse de rappeler historiquement comment, d'abord d'où vous venez, quels ont été vos circuits de formation et comment vous en êtes amené à créer le Chinese Institute, et de dire un mot également sur finalement le moment où la passerelle s'est créée entre vous deux pour du coup avoir ce petit coup d'accélérateur et être accompagné dans le développement.
D'accord, bon, on va essayer de répondre à tout ça.
Exactement, pour que nos auditeurs se disent, voilà, ce sont des possibilités qui s'offrent également à moi, mm-hmm. et je suis ravi de me nourrir de ces retours d'expérience via votre parcours, dites-nous.
Alors, donc moi, personnellement, il faut savoir que je suis un grand passionné de la Chine, parce qu'en fait, c'est une passion que j'ai depuis le plus jeune âge, et que j'ai eu la chance d'apprendre dès l'âge de 10 ans.
Mais comme Obélix, quoi, vous êtes tombé,
oui, je suis tombé dedans,
dans un bol de riz.
Vraiment, passionné de
incroyable.
La culture chinoise, de la Chine. Je vous dis ça parce que ça oriente évidemment tout mon parcours d'entrepreneur.
Oui, c'est pas récent.
Voilà, moi, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi.
D'accord.
Et donc, du coup, j'ai eu la chance de poursuivre le chinois durant toutes mes études. Alors, moi, j'ai un parcours d'école de commerce et j'ai fait un double diplôme, c'est-à-dire je suis parti un an à Pékin dans une université chinoise où j'ai obtenu un diplôme d'économie.
D'accord, voilà qui est effectivement très cohérent.
Voilà.
Pour pouvoir,
déjà, ça pose un peu le
exactement.
Cadre. Et en fait, en revenant, j'ai fait un master de création d'entreprise, entrepreneuriat. Et à l'issue de ce master, j'ai créé en fait le Chinese Institute avec des associés. Et dont en fait l'activité en quelques mots de Chinese Institute, c'est de former en fait le plus grand nombre de personnes en chinois, mandarin, en langue chinoise. Et donc, si vous voulez, on a une partie de cours particuliers et de cours pour les professionnels. Voilà en gros comment on s'organise.
Et par rapport à des formations équivalentes ou des choses qui pouvaient exister sur le marché parisien dans l'enseignement des langues
Justement, on a constaté, et c'est pour ça qu'on s'est lancé très rapidement, qu'il y avait un grand manque dans l'enseignement de la langue chinoise en France. et même en Europe à l'heure actuelle.
Alors il y a une volonté un peu non pas élitiste, mais en tout cas de sélection dans les collèges et les lycées, c'est-à-dire que le chinois s'enseigne, mais vous nous parlez de l'étape d'après, c'est-à-dire la capacité des adultes de se former au mandarin. Et
oui, c'est ça. Alors déjà dans le milieu scolaire, il y a un grand manque de professeurs de chinois, puisqu'il y a toujours un lobby des langues traditionnelles, espagnol, allemand. Mais en dehors de ça, si vous voulez, maintenant, nous, on forme nos plus jeunes élèves, ils ont 2 ans et demi, 3 ans. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'entrer au collège pour apprendre le chinois. Il faut commencer le plus jeune possible.
D'accord. Mais pour ça, il faut des professeurs.
Pour ça, il faut des professeurs. Alors, il y en a beaucoup, mais il manquait, si vous voulez, une structure relativement professionnelle, enfin, qui soit quand même établie, puisqu'il y a énormément de petites associations à Paris. Il y en a plein dans le 13e, etc. Mais il manquait, si vous voulez, une structure un peu sérieuse. Qu'on pourrait comparer, si vous voulez, à Wall Street Institute pour l'anglais, finalement.
Oui.
Donc nous, c'est le positionnement qu'on a donné, et spécialisé uniquement pour la langue chinoise, et on forme, je vous dis, donc des personnes ça va de 3 à 80 ans.
Oui, voilà. Un grand écart merveilleux, mais qui montre d'abord la soif d'apprentissage et la difficulté pour vous de vous organiser pour fournir en face un professeur adapté à chacun.
Voilà. Après, évidemment, ce ne sont pas les mêmes professeurs pour des enfants en bas âge et
les retraités. Il faut les trouver, il faut les former, il faut les fidéliser, il faut les doit être, du coup, j'imagine, la signature du Chinese Institute. Pour refaire les passerelles dont on parlait avec André tout à l'heure, comment c'est fait, parce que vous nous avez présenté votre parcours et du coup les multiples formations que vous avez suivies, comment vous est venue l'envie d'aller un peu plus loin en disant, voilà, dans le cadre de cette création avec mes associés, il peut être de bon ton, parce que la méthode française, souvent, dès qu'on sollicite une aide extérieure, c'est qu'on considère qu'on a raté quelque chose, alors que, pour revenir sur les cultures étrangères, le savoir-faire à plusieurs est très, très utile et indispensable. Et en France, on bloque un peu là-dessus.
Oui, c'est vrai.
Donc,
c'est vrai.
Quel est votre regard et quel est votre retour d'expérience avec André ?
C'est pas évident, vous l'avez très bien dit. C'est rapidement vu en France comme de l'assistanat, en fait, l'aide,
oui.
Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est au contraire, moi je l'ai vu comme un booster, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui permet, une aide qui permet de multiplier son efficacité au quotidien.
Alors là aussi, il faut choisir. Donc comment ça vous est venu et comment vous avez finalement rencontré André
Alors j'ai fait une démarche spontanée auprès d'Antonin. Il se trouve qu'au moment où je l'ai fait, il ressentait le besoin. Donc ça s'est bien tombé.
Bien sûr,
voilà,
il y avait l'offre et la demande qui se sont rencontrées, je dirais, un peu par hasard. Mais bon,
c'est non, un hasard qu'on sollicite.
Voilà, absolument, oui, un hasard sollicité.
C'est une belle illustration. Oui.
Donc il m'a dit, effectivement, là je suis dans la phase de préparation avant le lancement qui était prévu quelques mois plus tard. Et c'est très lourd et voilà, je me sens un peu seul, donc je ressens le besoin. Donc voilà ce qu'apporte le coaching. En fait, le coaching apporte deux choses principalement. Il apporte quelqu'un qui fait le miroir, c'est-à-dire on ne se voit pas, on ne se ressent pas, on ne s'entend pas. Donc c'est très utile d'ailleurs à tout le monde, hein, dans toutes circonstances, à la limite, d'avoir quelqu'un qui joue le rôle du miroir. Ça aide beaucoup. Par ailleurs, il y a un autre aspect qu'on peut appeler la neutralité bienveillante, c'est-à-dire le coach est quelqu'un de neutre par rapport à l'environnement professionnel de la personne coachée. Il n'est pas impliqué dans un contexte d'entreprise, tout ce que ça comporte. Donc il est neutre, mais il est aussi, ça c'est très important pour réussir, quelqu'un qui est fondamentalement bienveillant. Alors là, je me situe un peu dans l'optique de Rogers, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire la bienveillance est quelque chose de très important pour que ce soit efficace. La moindre malveillance va être contre-productive.
Non, mais merci André de revenir là-dessus, parce qu'on n'en parle pas assez souvent des vertus de la bienveillance, mais elle est indispensable dans un métier comme le vôtre encore plus. Mais
surtout à une époque où l'ironie est beaucoup pratiquée aussi. L'ironie n'est pas vraiment une forme de bienveillance, donc le coach, en principe, s'interdit, sauf qu'il y a une complicité très forte, ça peut arriver, qui se noue.
Restons sur le bien, le beau, le vrai, la bienveillance.
Alors, il y avait aussi un aspect avec Antonin, compte tenu de notre différence d'âge, parce que c'est vrai que j'ai plus de 30 ans d'expérience, donc il y a une certaine différence d'âge.
C'est ça le grand frère.
Voilà, donc le grand frère, c'est ce qu'on appelle en français le mentorat, ou en anglais le mentoring, c'est-à-dire le mentor, en fait, c'est une forme de coaching qui inclut en plus, je dirais, l'apport d'expérience de l'aîné, c'est-à-dire l'expérience professionnelle, l'expérience de la vie, ou l'expérience même de la création d'entreprise quand il s'agit de coacher un jeune créateur d'entreprise. Donc le mentorat, donc je signale aussi pour un aspect administratif mais qui peut être intéressant à savoir, c'est qu'il est considéré en France dans la législation comme une forme de formation, même si ça n'est pas réellement c'est pas de la formation au sens habituel du mot, simplement pour l'administration, les budgets formation, etc. Le mentorat peut être pris par exemple sur un budget formation.
Oui, ça, vous avez raison de rappeler ces éléments, non pas bassement matériels.
C'est de la logistique, mais...
Mais ça montre que il faut aller chercher les aides là où elles sont et que ça n'est pas un danger budgétaire, que les choses sont prévues pour ça. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vécu, Antonin? C'est-à-dire, comment est-ce que vous avez intégrer cette aide aussi financièrement, c'est-à-dire comment ça s'est fait ?
Alors financièrement, nous on l'a intégré en effet au budget formation. Voilà. Donc ça, il n'y a pas eu de.
Je dis ça dans l'esprit des auditeurs entrepreneurs qui nous écoutent pour qu'ils sachent que c'est un réflexe à prendre. Oui.
Après, il faut le voir, je pense, pour les autres entrepreneurs à venir, c'est vraiment un investissement, quoi. C'est-à-dire que autant on investit dans un bel ordinateur qui nous permet de faire plein de choses efficaces, autant
est-ce qu'on a la tête d'un bel ordinateur c'est plutôt la matière grise qu'on va puiser effectivement.
Mais voilà, mais là on va investir, alors même si c'est un coût, il faut se dire que ça va booster mon activité professionnelle et que du coup je vais en voir les résultats rapidement. Oui. Après. Et on voit les résultats pendant la période donnée hein, aussi.
Oui, c'est très factuel. C'est-à-dire du coup, cette idée de miroir fait que les décisions qui se prennent, on les juge étape par étape et on
c'est
voit...
C'est ça, et puis il y a aussi un... Alors André n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'à la fin, à l'issue de chaque séance, il y a un travail pour dire, bon, maintenant, quelles vont être 3-4 propositions concrètes que l'entrepreneur va devoir faire pour la prochaine séance. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail aussi opérationnel, on n'est pas simplement dans des beaux discours philosophiques, on a vraiment un aspect opérationnel, quoi.
D'où le c'est pour ça que il nous semblait intéressant de mettre la lumière sur un cas pratique que vous illustrez tous les deux, c'est que on a beaucoup de préjugés aussi sur certaines professions, les coachs, les créateurs de sites, un certain nombre de métiers comme cela, où néanmoins, lorsqu'on a l'occasion d'avoir une relation constructive avec tel ou tel, on se rend compte de la valeur ajoutée que ça représente. À l'inverse, il peut y avoir des écueils majeurs avec des personnes qui ne sont pas un miroir bienveillant, qui ne sont pas de techniciens qui vous font avancer. Donc, quand les choses fonctionnent, ça vaut le coup de les mettre en lumière, parce que dans votre cas, vous avez trouvé quelqu'un qui vous accompagne. Le Chinese Institute avance avec vous et avec ce coaching dont vous bénéficiez. Quel est le regard des autres associés ? Vous disiez, vous êtes combien dans cette aventure ?
Alors nous, on est 6 associés.
6 associés, c'est pas fréquent non plus, ça.
Non, c'est pas fréquent, mais c'était un besoin de fonds propres. On avait un besoin et une envie de se développer en fonds propres dès le départ.
D'accord. Après, vous nous reparlerez peut-être volontiers de la façon dont vous envisagez le développement.
Parce
que là, c'est
oui,
à Paris,
bien sûr.
Mais ça peut être, j'imagine.
Ah, c'est ça. On a beaucoup de projets et on n'en manque pas.
Bon. Là aussi, je laisse les auditeurs et les investisseurs écouter et revenir sur le site pour reprendre contact avec Antonin pour savoir ce qui peut leur plaire dans cette aventure et comment les accompagner. Des moments clés qui ont été importants pour vous, donc tomber dans le bol de riz à 10 ans, c'était la blague de tout à l'heure,
passion chinoise.
Mais d'autres anecdotes justement qui ont pu entre ces 10 ans et maintenant, qui ont marqué, qui vous ont permis à prendre certaines décisions, qui ont marqué votre histoire.
Mon histoire, elle est marquée par cette année passée en Chine à Pékin.
Oui.
Alors là, c'est vrai que c'était une immersion totale. Et en fait, c'est de ce passage en Chine que m'est venue l'idée d'un institut chinois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte sur place à Pékin qu'il y avait un nombre impressionnant d'étrangers qui ne savaient pas parler un mot de chinois, même pas un mot.
À Pékin. Ils sont à Pékin,
ils ne parlent pas un mot de chinois.
Ils restent en anglais.
Et du coup, en fait, voilà, ils se ferment des portes.
Oui.
Et donc, l'idée, c'est de dire, il suffit pas de... Enfin, il faut pas être bilingue pour pouvoir communiquer en chinois. Pourquoi ne pas faire une formation basique de chinois basique qui vous permet à l'issue de 5-6 mois parler le chinois de manière complètement basique et pouvoir avoir déjà des échanges en étant sur place. Donc on a aussi tout un travail de pédagogie, parce que vous savez, vous connaissez l'expression « c'est du chinois » dans la langue française, et on a tout un travail de pédagogie pour montrer aux personnes qui viennent chez nous que le chinois, c'est facile. Et on l'affirme haut et fort.
Voilà. Alors évidemment, vous nous ferez tout à l'heure peut-être le mot de conclusion en chinois pour qu'on comprenne qu'il y a quand même un décalage entre ce qu'on considère être facile et on parlait de préjugés. On en a beaucoup quant au chinois, donc vous êtes un bon ambassadeur parce que du coup cette approche, cette facilitation va dans le sens également de quelqu'un que nous avons reçu la semaine dernière, qui est Harold Parizeau sur le Chinese Business Club, qui se lance à Paris en même temps. Donc on voit qu'il y a une volonté en tout cas de s'approprier et de mieux connaître. Nos deux pays, de manière à faire tomber les préjugés et en même temps de pouvoir aussi saisir des opportunités, parce que après tout vous le disiez vous-même, des personnes sur place passent à côté d'un certain nombre de possibilités.
C'est ça.
Et la Chine, on peut se douter par rapport à petit pays hexagonal gaulois que nous sommes, que le contraste de taille et de puissance et d'histoire fait que il vaut mieux tendre la main quand même.
Bien sûr.
Donc et les projets clés André sur ces métiers de coaching, donc c'est effectivement de à la fois de faire connaître cette façon de pratiquer ce métier et de trouver d'autres aventures de développement. Là c'est avec Antonin, mais quels sont les autres univers dans lesquels vous évoluez avec vos clients ?
Après, c'est très très large. Là, j'ai des clients qui sont par exemple des cadres d'entreprise, donc ils font une démarche vraiment individuelle. Quelquefois, c'est l'entreprise qui conseille ou qui pousse un cadre, un collaborateur. Quelquefois, c'est la personne elle-même qui ressent le besoin et qui, avec ou sans, je dirais, l'accord et le financement de son entreprise, décide de faire un coaching. Donc, c'est extrêmement vaste et la prospection se fait tous azimuts. Mais comme je le disais tout à l'heure, j'essaye d'axer ma prospection sur la notion de projet, hein, puisque c'est quand même assez vaste aussi. Il y a des projets, il y en a partout et de toutes sortes.
Oui, oui.
Création d'entreprise ou autre type de projet. Une fois qu'elle est créée, l'entreprise a aussi tout le temps des projets. Il y a de tels gaspillages dans ces projets, des tels échecs aussi. Il y a des besoins énormes, je dirais, pour contribuer à la réussite des projets. Et alors, bien sûr, depuis longtemps, il existe des prestations de conseils et de formation en gestion de projet. Mais comme j'ai beaucoup pratiqué ça, je sais que les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on espère et pas toujours non plus à la hauteur des coûts, des sommes d'argent dépensées par les entreprises pour acheter ces prestations. Or, je pense que le coaching, je suis convaincu que le coaching a un rapport bénéfice-coût bien plus important qu'une prestation de conseil ou même de formation, et je pense notamment au management de projet.
Oui, et puis donc, de par le côté très concret dont vous parliez, Antonin, tout à l'heure. Et miroir en mon miroir, aide-moi à faire grandir mon projet.
Oui, mais c'est pas pour le plaisir c'est pour avoir aussi des résultats.
Hein. Grand Dieu, oui, le sens pratique.
On doit mesurer le résultat d'un coaching. C'est pour ça qu'au début d'un coaching, d'ailleurs, il faut définir des objectifs. C'est-à-dire que la personne coachée doit dire voilà. Ce que je veux atteindre comme amélioration de ma performance, ça doit être le plus précis possible.
Exactement.
Alors, ça peut être des problèmes relationnels, ça peut être dans le cas d'une prise de poste. Enfin, il y a toutes sortes de cas.
Les raisons le justifiant peuvent être nombreuses, mais la méthode et la rigueur est indispensable.
En tout cas, il faut au départ une sorte de contrat, écrit ou pas, mais qu'on sache quels sont les objectifs de la personne qui demande un coaching. Donc, ce n'est pas une prestation comme ça, dire on va vous accompagner parce que c'est bien. Non, il y a des objectifs à atteindre et on peut donc mesurer d'ailleurs, du coup, la réussite d'un coaching de cette manière.
Bon, là aussi, je laisserai les internautes se réveiller sur ces sujets-là et vous retrouver en ligne pour savoir vous poser les bonnes questions et s'intéresser au sujet pour ne plus être de temps en temps trop seul. Antonin, je vous laisserai volontiers le mot de la conclusion, contrairement à mes habitudes, mais pour que vous puissiez, je vais vous laisser traduire les hommes clés et We Do Biz, nous faisons du business, pour saluer nos auditeurs et leur tendre cette main franco-chinoise. Et vous laissez donc, je ne pourrais pas contrôler ce que vous dites, mais conclure cette émission en parlant aux entrepreneurs et avec une touche d'espoir quant à cette capacité de pouvoir s'ouvrir vers la Chine. Donc à vous la parole.
Vaste programme.
Hein, oui, je vérifierai tout de même un tout petit peu après, mais je vous laisse conclure l'émission. Je vous remercie d'abord, parce qu'après, lui laissant la parole, je ne dirai plus rien. Je vous remercie. Merci pour cette présentation du Chinese Institute. Merci André pour cette précision sur le mentorat également, qui est une nouvelle approche qu'on avait grandement appréciée avec vous. Antonin,
merci Benoît.
Pour conclure, je vous laisse nous dire comment vous soutenez les hommes clés en chinois.
We Do Biz 很高兴大家好，你们都很高兴，你听我们，再见。